franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre et bonjour à tous. On ne connaît pas encore son prénom, mais son visage s'affiche déjà à la une de la presse dans les pays du monde entier, du moins dans la presse occidentale. À commencer bien sûr par la presse britannique. It's a royal baby girl, titre ainsi le Télégraphe. Les débuts publics de la nouvelle princesse royale, annonce le Financial Times, tandis que le Daily Mail évoque une belle au bois dormant, a sleeping beauty dans le texte. Et de fait, elle dormait quand elle est apparue hier, quelques heures après sa naissance dans les bras de sa maman. Naissance très attendue. Et que relatent donc également les journaux de l'Hexagone. Manchette de Midi Libre, George a une petite sœur, avec un point d'exclamation. Manchette de la Provence, voilà le deuxième royal baby, avec un point d'exclamation. Et photo pleine page à la une du Parisien dimanche. C'est une fille, avec, faut-il le préciser, un nouveau point d'exclamation. Bref, sans toutefois parler d'un enthousiasme planétaire, on peut dire que le deuxième enfant de Kate Middleton et William permet à la presse ce matin de titrer sur une bonne nouvelle, ce n'est pas si souvent. Un heureux événement, selon l'expression consacrée, d'autant que c'est un beau bébé, 3,7 kg et des bonnes joues. N'empêche, se pose une question, pourquoi donc les Français sont-ils à ce point fascinés par la monarchie britannique? Une fascination qu'illustre l'enquête Odoxa que publie le Parisien. 70% des sondés disent qu'ils ont une bonne opinion de la famille royale et 48% avouent même qu'elle les fait rêver. Analyse dans le journal d'un des grands spécialistes des têtes couronnées, j'ai nommé Stéphane Bern. De Gaulle disait que les Français avaient le goût des princes. Et moi, dit-il, je crois que la France ne s'est jamais guérie d'avoir rompu les liens avec la monarchie. Au fond, l'Angleterre est un peu notre monarchie de substitution. Et si la famille royale est aussi populaire, c'est parce qu'elle incarne un pouvoir symbolique qui sait rassembler tout un peuple. Et Stéphane Bern d'expliquer par ailleurs que cette nouvelle naissance est en plus une très bonne nouvelle pour l'industrie britannique, notamment l'industrie textile, car toutes les robes, les layettes et les barboteuses de la petite princesse vont être copiées. On estime, dit-il, à 180 millions d'euros les recettes induites par cette naissance. Une petite princesse qui n'a donc toujours pas de prénom, patience, prévient le quotidien, car avant d'être divulgué, le choix doit être validé par la famille. En juillet 2013, le prénom de George avait été connu seulement 48 heures après sa naissance, mais pour William et Harry, il avait fallu attendre une semaine et un mois pour Charles. En 1948, Charles qui depuis maintenant exactement 24 heures est donc le grand-père d'une petite fille sans prénom, une petite princesse qui dans quelques années, quand elle consultera la presse parue le lendemain de sa naissance, lira qu'on y parlait à la fois beaucoup d'elle et beaucoup de son pays, sur lequel, soit dit en passant, elle ne devrait jamais régner.
Un pays où se dérouleront dans quelques jours des élections législatives. Et le sujet fait notamment la une du Monde.
Avec un gros plan sur l'Europe. L'Europe, enjeu crucial des élections britanniques. Enjeu crucial, enjeu caché. Le conservateur David Cameron a promis un référendum sur une sortie de l'Union européenne. Son principal adversaire, le chef de l'opposition travailliste, a promis qu'il n'en ferait pas, car a-t-il dit, si jamais la Grande-Bretagne sortait de l'Union européenne, ce serait un désastre pour des millions de postes, pour les entreprises, mais aussi pour les familles. Si je deviens Premier ministre, a poursuivi le chef du Labour, je veux avant tout dépenser mon énergie sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi et la santé. La sortie de l'Union, un désastre, c'est aussi le point de vue défendu par Denis McShane, ancien ministre des Affaires européennes de Tony Blair. À ses yeux, si la Grande-Bretagne décidait de quitter l'Union, ça déstabiliserait l'Europe, alors que celle-ci est déjà entourée de zones de tensions et de conflits. Des tensions, des conflits. Toi, petite princesse qui n'a pas encore de prénom, quand tu consulteras la presse, parue le lendemain de ta naissance, tu verras que la planète en regorge de tous côtés. Des tensions. Au Népal, 8 jours après le tremblement de terre, 8 millions de Népalais ont été affectés par le séisme, le plus meurtrier de l'histoire du pays depuis 80 ans, et 1 millier de ressortissants européens, dont plus d'une centaine de Français, sont toujours recherchés. Certains ont toutefois choisi de rester sur place pour participer au secours. C'est le cas de Mona La Barbera, une jeune Française de 23 ans qui a suivi Camille Neveu pour le journal du dimanche. Elle a lancé une collecte via Facebook. Elle a recueilli près de 400 euros. Une broutille, quand on sait que le Népal a besoin aujourd'hui d'1,8 milliard d'euros pour se reconstruire, une broutille. Mais grâce à cela, grâce à ces 400 euros, Mona, la Barbera, a pu acheter des colis alimentaires pour 22 familles népalaises. Elle a pu construire un abri pour une autre famille et elle a pu sauver un bras et un genou de l'amputation. Une triste vie d'après séisme que raconte aussi Carole Izou dans Le Parisien. Elle raconte une aide internationale qui a beaucoup de mal à se coordonner. Des sacs de riz qui arrivent dans des villages qui n'ont pas d'eau. Des cartons de serviettes hygiéniques qui arrivent dans des villages où l'on manque avant toute chose de tentes. Des tensions, des conflits. Conflits à craindre au Burundi, nous explique le JDD. Conflits entre communautés, des Tutsis, des Hutus. Certains craignent un nouveau Rwanda. Conflits aussi avec ce groupe qu'on appelle État islamique, sur le site Mediapart. Vous pourrez lire l'interview d'un jeune Français aspirant djihadiste. Il a la trentaine et il est actuellement détenu pour trafic de stupéfiants, mais à Louise Fessard, il a confié par téléphone que son seul projet, à sa sortie de prison, c'était d'émigrer, de combattre à l'étranger pour Allah et ne pas revenir. Il a basculé dans une logique sectaire et apocalyptique et prône aujourd'hui la lutte armée contre ce qu'il appelle les mécréants, notamment en Syrie. À cela s'ajoute un fond très assumé d'antisémitisme. Ses propos sont glaçants. Pour éviter toutefois qu'il ne soit reconnu, le site a choisi de ne pas donner son nom, ni même son prénom.
Et que pourra lire d'autre, Frédéric, la petite princesse qui n'a pas encore de prénom ?
Elle pourra lire qu'en France, le lendemain de sa naissance, on débattait non seulement de son prénom, mais d'un autre prénom. Du moins, on débattait autour du choix d'un nom, le nouveau nom de l'UMP, les Républicains. Ceci ne dira pas grand-chose à la petite princesse, Républicain, mais c'est donc ce nom-là qu'a choisi Nicolas Sarkozy. Le journal du dimanche nous apprend qu'il présentera à ses troupes le logo pressenti mardi prochain, mais pour le nom, comme donc il y a débat, il y aura un vote et ce sont les militants qui trancheront, annonce Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, dont Marianne nous explique qu'il s'est permis il y a quelques semaines de livrer son point de vue au président du CSA à propos de la nomination du futur patron de France Télévisions. C'est Marc Endeveld qui signe le papier. Et d'après ces informations, Nicolas Sarkozy aurait passé un petit coup de fil à Olivier Schramek afin de lui suggérer de choisir pour le groupe audiovisuel public une personnalité au profil Sarko compatible s'il voulait que le CSA perdure après 2017. Un conseil amical et ce dans la plus pure tradition sarkozyste, explique mon confrère. Alors j'avoue que je ne sais pas si Delphine Ernot, qui est donc la nouvelle patronne de France Télévisions, a effectivement un profil sarko-compatible, mais d'après Marianne, son action devait être scrutée à la loupe par celui qui ambitionne de revenir à l'Élysée. De son côté, son successeur fêtera cette semaine ses 3 ans à l'Élysée, mais y a-t-il vraiment des raisons de fêter ses 3 ans à l'Élysée? Sur le site Atlantico, sondage peu flatteur, plus de 8 Français sur 10 jugent que son bilan est négatif. François Hollande a donc très peu d'admirateurs, très peu, mais il en reste. À l'image du gastronome ex-animateur Jean-Pierre Coff, qui publie cette semaine son autobiographie, pour l'occasion L'Express lui consacre un portrait. Coff passe à table, c'est le titre. Un portrait dans lequel cet ancien giscardien dit donc son affection pour le locataire de l'Élysée. J'aime bien François Hollande, je le trouverais bien dans sa fonction, j'apprécie son humour. En revanche, Coff ne goûte pas l'humour de l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy. Sur le plateau de l'émission Vivement Dimanche, raconte-t-il, il m'a demandé de le tutoyer et de l'appeler Nicolas. J'ai refusé et 15 jours plus tard, j'avais un contrôle fiscal. Fin de citation, morale de l'anecdote, si Nicolas Sarkozy vous demande de l'appeler Nicolas, appelez-le Nicolas. Nicolas, qui aura sans doute fort à faire avec Alain. Grand dossier dans Le Monde sur Alain Juppé, le candidat qui mise sur la matière grise. C'est en tout cas ce qu'expliquent ses soutiens qui, depuis plusieurs mois, s'organisent en vue de la primaire à l'UMP, futur républicain. Ses proches qui s'organisent également en vue de 2017, il prévoit de publier 4 livres dans les mois qui viennent pour expliquer son programme. Et ses amis qui lui font des notes sur à peu près tous les sujets, ils sont 200 à travailler autour de lui dans des bureaux, et lui font des notes et ils affirment qu'ils s'inscrivent dans une campagne profonde et pas dans une campagne d'estrade et de slogans. Nicolas appréciera.
Le ministre de la Défense fait également l'actualité.
D'abord avec la vente des Rafales au Qatar. Il y a eu l'Inde, il y a eu l'Égypte. Désormais, il y a le Qatar. Et dans Le Parisien, vous pourrez lire tous les détails des tractations menées pour aboutir à cette vente de Rafales. Le ministre de la Défense s'est déplacé plusieurs fois. Il a noué des liens, quasiment des liens d'amitié avec les responsables qataris. Et ça a donc marché puisque le Qatar achète les avions de Dassault. Il fait également la une, le ministre de la Défense, dans l'affaire des militaires qui sont soupçonnés d'avoir violé des enfants en Centrafrique, dans le JDD. Jean-Yves Le Drian lance cet appel que les soldats se dénoncent. Trois des militaires soupçonnés auraient déjà été identifiés. Pour le reste, dans la famille Valls, je demande la sœur. Elle est en photo dans Elle, avec une interview qu'on nous présente comme une interview exclusive. La drogue, l'alcool, la maladie, le sida, la prison, les coups, le désespoir. Giovanna Valls-Galfetti relate son parcours dans un livre, sa descente aux enfers. Et elle écrit comment elle a pu s'en sortir, notamment grâce à sa famille. C'est Olivia de Lambertery qui est allée la rencontrer dans sa maison de Barcelone. Elle parle d'une femme merveilleuse. Et son frangin, il est comment? Il ressemble à mon père, répond Giovanna, sensible et généreux, mais pouvant se montrer cassant. Et votre enfance, c'était comment? Une enfance normale, dit-elle. Ma mère nous lisait des romans de Dickens, mon père nous lisait des extraits de l'Évangile, et le soir à la radio,
on écoutait France Inter,
les maîtres du mystère. Giovanna Valls, petite sœur du Premier ministre, petite sœur, comme l'est donc la petite princesse qui n'a pas encore de prénom. Mais il faut pas oublier Georges, et ça c'est le site Huffington Post qui nous en parle, il faut pas que les parents oublient l'aîné. Alors quelques conseils d'éducation sur le Huffington Post, éducation pour ne pas oublier que c'est pas facile d'avoir une petite sœur, surtout quand on est encore un tout petit garçon. Voilà, ne pas oublier le fils de Kate et de William. D'ailleurs, Pierre-Emmanuel est aussi devenu papa cette semaine. Pierre-Emmanuel, c'est mon cousin, Patricia. Et sa fille n'a évidemment pas eu droit aux mêmes égards que celle de William et de Kate.
Vous me parlez de votre cousin.
Pas de foule hystérique devant la maternité, pas de photo à la une, les journaux du lendemain. Pourtant, elle aussi, elle est jolie. Et elle, on connaît son prénom. Elle s'appelle Louison, c'est très mignon. Et mon cousin m'a dit qu'il appelait sa petite princesse.
On fait un baiser.
Bonne journée.
Merci Frédéric Pommier.